Voilà donc, bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes le vendredi 28 septembre 2012. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, nous vous rappelons aussi que cette émission invite tous ceux qui sont victimes de l'abus de l'autorité ou d'une injustice, quelle que soit sa forme, puisqu'au fond du tunnel, toutes les injustices se retrouvent à la fin dans le même box d'accusation. Nous encourageons également les témoins de ce fait de manifester leur volonté et témoigner à leur tour sur ce plateau. Pourquoi justement dénoncer et témoigner contre les abus de l'autorité et des injustices de notre société? Parce que simplement, c'est notre ultime devoir comme citoyen, c'est notre responsabilité individuelle et collective, et c'est notre contribution envers cette société qui est la nôtre. Témoigner dans cette émission parce que c'est la seule émission qui a le courage et l'audace de dire à haute voix non aux abus de pouvoir, non aux injustices. Cette émission qui s'est engagée dans cette voie, déterminée à ne jamais faire demi-tour, c'est une émission qui cherche à stopper ce phénomène dégradant de notre société. Alors voilà pourquoi vous devrez prendre votre courage en main et venir à notre appui, à notre soutien. Pour nous, vous êtes les arguments, les puissances, et vous êtes aussi des preuves tangibles sur lesquelles notre bien-vouloir se trace de plus en plus chaque jour. Alors ne minimisez pas, chères auditrices, chers auditeurs, ne minimisez pas votre contribution, votre participation. Chaque témoignage fait reculer une injustice, un abus de pouvoir. Chaque témoignage, chaque dénonciation ne dévoilera un nouveau visage, une nouvelle méthode, un nouvel agresseur de l'autorité à éviter. Chaque témoignage est un signe de prévention et d'ajustement. Sachez même aussi qu'au moment, ça veut dire au moment de votre dénonciation, de votre témoignage, un voile se lève et peut-être un autre masque tombe. Vous jetez publiquement un phare de lumière sur l'agresseur, vous lui dites non. Vous le repoussez en arrière. Finalement, vous l'aidez à ne plus commettre de bavures judiciaires. Bref, vous épargnez une nouvelle victime et vous envoyez un avertissement, un rappel que l'autorité, c'est une protection et non pas une agression non autorisée envers le citoyen. Alors, nous allons continuer de vous rappeler, chers auditeurs, chères auditrices, votre devoir et votre responsabilité envers cette société pour laquelle il ne faut jamais céder à l'injustice, à l'abus de l'autorité, un phénomène qui devra être exclu en définitif de notre vie de tous les jours. Avant de passer à notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais vous faire part de cette coïncidence qui nous a surpris alors que le mage était en train de choisir, si vous voulez, de trouver peut-être qui peut être le plus ridicule, hein, le plus ridicule Premier ministre ou président dans le monde, ou bien pour l'année 2011-2012. On cherchait vraiment qui peut être vraiment parmi les premiers ministres et parmi les présidents dans le monde pour l'année 2011-2012 qui peut être, qui peut soulever ce poids de la ridiculité, d'être ridicule. À cet instant précis, imaginez-vous que les médias internationaux nous informent que notre Premier ministre, nous, Stephen Harper, avait obtenu de la part d'un cirque à New York le prix de l'homme de l'État de cette année-là. Circonstance, alors, un prix que nous sommes tous forcés, chères auditrices, chers auditeurs, de partager, même si on le refuse, même si on le rejette. Nous sommes tous Canadiens ou bien Québécois. Nous sommes obligés de l'avaler jusqu'à nos dernières entrailles, un prix qu'on n'a jamais souhaité. On n'a jamais réclamé un prix d'être ridicule publiquement et officiellement. Voilà cette surprise. Donc, je reviens ce matin sur le plateau. Je reçois M. Sylvain Paquette qui est probablement nous ramène vers une autre destination, l'abus du pouvoir chez certains avocats, chez certains juges même. N'oubliez pas que certains juges aussi franchissent de temps à autre leurs limites et le pouvoir leur joue des fois des mauvais tours. En principe, un avocat ne doit jamais oublier, ni même dans les pires circonstances de sa vie, les principes qui constituent précisément l'esprit de la justice et le sens de la sécurité juridique qu'il doit défendre. Il nous dit justement Raphaël Bézla dans son ouvrage « La profession d'avocat ». Vous savez que le code d'éthique professionnelle insiste tout particulièrement sur les fautes disciplinaires, également connues sous le nom de fautes d'éthique professionnelle. Un avocat devra offrir à leurs clients des concepts francs, honnêtes et complets, quel que soit le dossier traité. Il doit aussi informer leurs clients de l'évolution permanente de l'affaire qui leur a été confiée. Et entre autres, d'ailleurs, il devra ne pas accepter tout dossier vis-à-vis duquel il n'aurait pas les compétences nécessaires ou qu'il ne pourrait pas prendre en charge de manière responsable en raison d'un accès de compromis professionnel. Je connais personnellement un avocat ici à Montréal qui a négligé ouvertement des dizaines de dossiers sous prétexte qu'il s'est occupé d'une dizaine d'autres dossiers ou des milliers même de centaines de dossiers dans la foulée par exemple des carrés rouges. Donc il était allé même devant plusieurs juges avant cet argument sans qu'un juge lui avait dit qu'il avait tort. Il avait même obtenu des prolongations et le dossier des accusés se traîne encore des mois et des mois. Alors les accusés à tort ou à raison dans ce dossier n'avaient pas le choix d'ailleurs, chers auditrices, chers auditeurs, de rien dire. À défaut, l'avocat en question va les abandonner justement au milieu des circuits. Si certains avocats ici au Québec ne respectent pas leur code d'éthique, c'est parce qu'ils savent que personne d'entre eux ou autour d'eux, si vous voulez, ne respectent réellement pas leur engagement. Les avocats qui sont honnêtes, ou bien ils sont même parfois, ils ont de la difficulté à payer leur propre loyer. Alors que certains, beaucoup moins honnêtes, ils font des fortunes sans être forcément à la hauteur de la fonction. Et nous pouvons bien sûr, dans une autre émission, quand nous aurons l'occasion, vous montrer comment ces avocats malhonnêtes font beaucoup d'argent sans effort aucun. Et on vous aurait pleinement l'occasion de s'interroger sur le rôle du barreau ici au Québec. Parmi aussi les règles du code d'éthique judiciaire, dans la section de l'intégrité, les juges devront se comporter avec la probité. Hein, la probité, ça veut dire l'entêté, et l'intégrité qui conviennent à leur charge, renforçant ainsi la confiance du public dans la magistrature. Il nous arrive souvent d'aller assister à des audiences au palais de la justice de Montréal, et il nous arrive souvent, en quittant les lieux, d'avoir été dans un supermarché où tout le monde s'en pressait de finir pour rentrer chez eux. Et heureusement qu'ils ne sont pas nombreux. Je dis bien, ils ne sont pas nombreux, ces juges-là, qui se prennent pour le bon Dieu. Je laisse notre invité, peut-être M. Sylvain Paquette, nous donne plus de précisions à partir d'un échantillon expérimenté. Dans un autre registre, nous allons céder la parole aussi à Caroline, qui vient nous parler d'une autre injustice qui frappe lourdement les diplômés universitaires. Après des longues études, ils se retrouvent en chômage forcé, ou bien ils se voient dans l'obligation d'accepter des emplois précaires qui se prolongent à atteindre l'éternité. Caroline, donc, selon Caroline, bien sûr, c'est une injustice déplorable. Et ce qui l'inquiète davantage, c'est que les futurs universitaires hésitent de suivre les disciplines de leur choix. Autrement dit, ils évitent des disciplines où les ouvertures au marché de l'emploi se referment une après l'autre. Donc, faire des études en art, par exemple, en littérature, en philo, en sciences politiques, et j'en passe, devient un risque de décrocher à la fin de vos études un diplôme de chômeur qualifié. Et en même temps, négliger justement ces études qui développent et rassurent l'avenir de l'homme en tant qu'un être humain nous fait peur. Entre ces deux concepts, peut-être que Caroline trouvera un compromis. Voilà donc au micro avec vous ce matin Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme soi-disant qui fait la surveillance civile afin de prévenir et dénoncer les abus du pouvoir et les injustices dans nos institutions judiciaires. Mon collègue Roland Cazès, comme d'habitude, m'accompagnera le long de cette émission. Restez à l'écoute, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Après notre thème musical, nous revenons bien sûr avec le reste de cette émission.
Formidable sur les problèmes de société, où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont
masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Voilà donc, grand bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice. Une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. J'aimerais bien tout d'abord remercier mes invités. Donc, Caroline, merci d'être ici parmi nous. Monsieur Sylvain Paquette, merci d'être là. Roland Cazès, je n'ai pas de te dire rien du tout. Et nous avons un observateur, Henri Barnabé, qui n'est pas témoin, il est observateur. Hein. Vous allez voir, de temps en temps, peut-être il va nous dire un mot, et j'espère que ça va aller. Alors, je commence peut-être directement avec mon collègue Roland Cazès pour démarrer l'émission. Vous savez que, vous savez comme moi d'ailleurs, que notre Premier ministre Stéphane Harper a eu le prix l'homme de l'État de l'année. Alors,
dites-moi d'où ça vient, je vais vous dire qu'est-ce que c'est.
On n'a pas besoin de savoir. Moi, j'ai compris que ça vient de...
Oui. Vous savez la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard.
Qu'est-ce qu'il dit le corbeau, le renard?
Rappelez-vous que le renard qui voulait le fromage du corbeau lui disait « Maître corbeau, que vous êtes joli, que votre plumage, que votre roimage... » En fin de compte, il flattait, afin de pouvoir obtenir quelque chose du corbeau. Ouais. C'était le fromage. Ouais. Ah, n'oublions pas que Maître Netanyahou, excusez-moi, Maître, peut-être pas Maître, parce que disons qu'il flatte pour une belle raison. C'est que nous aurons des avions de guerre bientôt, et il est espère pouvoir faire participer à la guerre contre l'Iran.
Roland, pour vous, c'est un signe de...
C'est de la flatterie. On flatte le monde de façon à pouvoir obtenir... Et monsieur, moi, je trouve que monsieur Harper, qui annonce toujours à l'étranger tout ce qu'il doit faire dans notre pays. Oui. Il annonce aux étrangers d'abord avant de nous l'annoncer à nous. Oui, rappelez-vous les pensions qui devaient couper. Oui. On apprend d'après les étrangers, à l'étranger, que M. Harper prend des décisions. Le rapatriement des ambassades, l'augmentation du pétrole de ce fait. Oui. Parce que nous achetons maintenant le pétrole des États-Unis qu'il achète à l'Alberta. Oui, oui. Donc nous payons plus cher.
Oui. mais tout ça, Roland, tout ça, tout le monde il sait ça. Mais le plus important pour aujourd'hui, pour ce qui t'est arrivé hier, l'acceptation d'être déclaré l'homme de l'État de l'année, c'est que c'était presque, ça nous revient à nous, cette histoire-là, parce que on a été obligé d'accepter en même temps ce prix-là, alors que nous, les citoyens, on n'a pas été consultés. Hein. Je ne pense pas que la majorité des citoyens étaient consultés dans ce domaine-là.
Non.
Alors,
mais moi, je verrais très bien.
Parce qu'accepter ce prix-là, c'est accepter au nom du Canada, au nom de tous les Québécois.
Non, mais regardez, monsieur Zitouni.
Monsieur Harper.
Monsieur Harper. écoutez, attendez qu'on vote pour vous, moi, avant. Monsieur Harper, ça serait un très bon ministre, savez-vous quoi, s'il paierait les études de nos étudiants en université. Ouais. Là, plutôt bien. Que de dépenser de l'argent pour faire la guerre.
Ouais. Moi, je prétends... La préparation de la guerre, c'est pareil.
Oui, préparation, mais je vous le dis d'avance.
Mais ça fait peur.
Il y a longtemps que j'annonce qu'ils vont déclarer la guerre à l'Iran, et puis là, les fanatiques vont commencer. Ouais. Les fanatiques d'un bord et de l'autre. Ouais. Moi, ce que je prétends, c'est que s'ils payaient les études de nos étudiants dans les universités, je ferais vraiment un coup de chapeau à cet homme-là. Oui. Mais il ne le fera pas. Comme les soins de santé qu'on nous augmente de 400 dollars par famille et ainsi de suite, c'est à cause de quoi ? Le fédéral qui a débarqué de ses responsabilités.
Tout à fait. Mais on a aussi un sentiment que le Canada devient un élément déclencheur d'une guerre mondiale.
On sent qu'il est vraiment... a rapatrié les ambassadeurs. Parce que M. Netanyahou lui a dit...
Il coupe la communication.
Rapatrie tes ambassadeurs, on va passer quelque chose sur YouTube, et bien sur Facebook, et ça va déclencher...
Mais Roland, couper la communication, ça veut dire c'est démarrer les balles et les bombes, vous comprenez? Quand vous coupez la communication, ça veut dire que vous êtes en train de se préparer pour... au-delà de la parole. Alors maintenant, merci Roland pour la précision. Je passerai directement à notre invité aujourd'hui, Sylvain Paquette. Merci Sylvain d'être ici aussi. Vous, Sylvain, je sais que vous me l'avez dit avant d'être ici dans le bureau, comme quoi, avant de rentrer dans cette bataille juridique et tout, vous ne connaissez pas les avocats, vous ne connaissez pas les juges. Cet univers-là était un petit peu étrange pour vous. Alors, quand vous rentrez maintenant, vous découvrez un petit peu, qu'est-ce que vous avez découvert une fois mis le pied dans ce territoire, ce terrain-là qui est un petit peu... il faut le dire, un peu difficile.
Ouais, c'est un angle...
Est-ce que tous les avocats, pour vous, sont honnêtes? C'est ça la question, première question.
Mais... Je pourrais pas dire que tous les avocats sont honnêtes. J'ai mis les pieds dans un engrenage, dans un univers que je connaissais pas du tout. J'ai aucune étude en droit.
Le système judiciaire, c'est un engrenage là qui peut broyer des humains. Hein.
Moi, je suis à l'époque, j'ai fait des études en architecture. J'ai pas fait d'études en droit.
Alors, vous savez pas que vous allez vers quoi?
Non, pas du tout. Puis bon, je m'en avais à quoi? Moi, quand j'ai eu mon accident, j'ai fait des recherches.
Alors, faut juste résumer rapidement. Donc, vous avez eu un accident. Vous étiez soi-disant et vous mettez la responsabilité sur le propriétaire du lieu.
C'est le propriétaire des lieux. Et vous avez mis des barricades adéquates.
Alors, vous êtes quand même se retrouver au sol d'une chute de combien de mètres?
De 16 pieds de haut.
16 pieds de haut. Et vous avez quand même des blessures graves.
Hein? Oui, j'ai eu. Un exemple. Ouais, j'ai eu 22 fractures.
22 fractures sur le corps.
3 de la boîte crânienne. J'ai eu 8 côtes cassées. Ouais. 2 vertèbres dans le nuque de fracturer, 1 dans la colonne, et ainsi de suite, à part des dommages internes.
OK, vous êtes quand même glissé dans l'enfer, si on veut. Oui. Tu comprends? Alors là, vous êtes en train de se réveiller, vous essayez de soulever, et vous allez vers la cour pour chercher justice.
C'est ça.
Et qu'est-ce que vous avez trouvé pour aller chercher la justice?
Ah, mon Dieu, j'ai trouvé une avocate que, sans dire qu'elle était incompétente en matière...
D'abord, elle a accepté le dossier... Et vous le reprochez, Roland, elle lui reproche parce qu'elle n'était pas compétente. Ouais. Et dans l'éthique, il faut vraiment être compétent. Si, par exemple, un avocat qui sait, on lui présente un dossier, il sait d'avance qu'il n'est pas compétent, il faut le dire.
Il va le refuser.
Il va le refuser automatiquement. Ce qui n'était pas le cas.
Ça n'a pas été le cas. Bon, puis la loi, j'ai sorti des jurisprudences.
Non, mais avant d'aller vers les, avant d'aller vers les lois, elle n'était pas compétente. Elle a pris quand même le dossier, mais comme elle n'était pas compétente, finalement, vous le dites, elle a essayé de trouver une entente hors cours, si vous voulez.
Une entente hors cours.
Sans vous aviser. C'est sans reprendre votre avis, c'est parce ça?
Il y a quelque chose quand même, M. Zitoni, il faut rappeler aux gens. Oui. C'est le mandat. Le mandat, lorsqu'on donne un mandat à quelqu'un...
De représenter.
Mandataire, oui. Il doit représenter la personne.
Exactement.
Et c'est très important. Oui. Il doit consulter son client à chaque fois.
Exactement, c'est ça.
Il n'a pas le droit de prendre les décisions.
Mais dans ce cas-là, et c'est le cas d'autres avocats aussi qui font ça, qui prennent des fois des décisions sans presque consulter, vous comprenez. Ou bien, des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont influencer ou pousser ou obliger... l'accusé ou le client d'accepter cette contre-cœur.
Je vous dirais faire des menaces subtilement, mais sauf qu'à un moment donné, on se dit à quelque part, l'avocat te pousse à accepter une offre qui est complètement ridicule.
Alors, pour que les auditeurs comprennent un petit peu, vous réclamez 280 000 $. Et je sais qu'il y avait une discussion entre l'avocate et le juge aussi en question, et que l'avocate, finalement, elle a dit, écoutez, là, on va accepter l'offre de 5 000 $.
Ouais,
alors, pour vous, c'était quoi? C'est une insulte, hein?
Ben, c'est carrément une insulte.
Mais je m'excuse.
Ça n'a même pas de bon sens, le 5 000 $.
Ces 5 000 $, ça représentait sûrement ses honoraires.
Attention, Roland, parce que dans son cas, cette avocate-là, elle a refusé d'être
indemnisée. Puis moi, c'était à 20%. Puis à l'époque, 20% de 5 000, c'est quand même 1 000 $.
Oui.
Mais à un moment donné, en faisant des recherches sur le site internet Canly, qui est un site du gouvernement, elle poursuit deux clients pour 172 et 54. Puis moi, elle refuse 1 000 $.
Elle
poursuit deux clients.
Alors si j'ai bien compris, et les auditeurs, j'espère qu'ils ont compris la même chose, c'est que vous le reprochez d'être incompétente. Première chose. Ouais. Deuxièmement, d'avoir
négligence aussi,
et d'avoir accepté un hors cours, un règlement en cours, alors que vous ne vous a pas consulté.
Sans me consulter, puis.
Aujourd'hui, toute la bataille que vous avez, vous êtes contre cette avocate-là.
Oui, là, je m'en vais, j'attends une date, mes papiers ont été faits, j'ai préparé un mémoire, ils ont répondu à mon mémoire, et je m'en vais devant le tribunal, j'attends une date pour le tribunal des professions, justement, pour dénoncer tout ça.
Est-ce que vous trouvez ça facile aller dénoncer ou aller contre la volonté ou contre un homme de loi, ça, c'est qu'un avocat, c'est un homme de loi, qui peut jouer, qui peut se dérober derrière les lois et tout. Est-ce que c'est facile pour vous, un homme
qui est vraiment pas facile,
un citoyen simple, quoi?
C'est pas évident de trouver un avocat qui va se battre contre un avocat.
Oh, ça, c'est vrai aussi.
Qui va dénoncer
son collègue, hein, l'esprit
qui
aussi.
Va dénoncer.
Hein,
c'est un peu comme la police. Il n'y a pas de policier qui accuse d'autres policiers.
Ouais, exactement.
Regardez, j'ai eu une poursuite au criminel, que là, j'ai rencontré un avocat criminaliste, Maître Lavoie.
Oui.
Puis, parce que j'ai envoyé des courriels à mon avocat, puis il dit non, il n'y a pas matière à criminel là-dedans, tu n'as pas fait aucune menace et tout ça. Puis cet avocat-là, il a pris connaissance un peu de mon dossier, des propos contradictoires que Maître Lecomte
avait fait. Alors, M. Sylvain Pacadjic, pour préciser un petit peu, je sais que vous avez envoyé entre-temps, vous avez envoyé à votre avocate, l'avocate en question, vous l'avez envoyé comme quoi, écoutez, là, ce n'est pas juste ce que vous avez fait, je n'ai jamais accepté cette entente de 5 000 $, et vous allez continuer à lui écrire. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle va dire, monsieur m'intimide, et elle vous poursuit au criminel. Vous pouvez risquer de passer un an de prison.
Oui, c'est ça.
Voilà, parce que vous avez dit à madame, est-ce que vous l'avez dans les courriettes que vous avez envoyées, est-ce que vous avez menacé en quoi
pas
que ce soit,
tout,
madame?
Regardez,
jamais.
Même l'avocat criminaliste, il dit, Sylvain, il dit, écoute, dans tout ce que j'ai vu à date, j'ai pris 80% de ton dossier à date de lu. Il n'y a aucune menace là-dedans.
Ce que j'ai compris, monsieur Sylvain Paquette, je vous comprends, c'est une sorte de révolte, mais vous étiez en train de dire, madame, c'était pas la bonne manière. Grosso modo, là, ce que vous avez...
Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris les bonnes mesures. Mais tu sais, à un moment donné, on veut des réponses.
C'est ça, voilà, et exactement.
Cette personne-là, tu envoies des courriels, mais elle répond jamais. Fait que dans ta tête, tu dis, est-ce que j'envoie les courriels à bonne place? J'ai pas de réponse. Fait que tu continues.
Il n'y a pas d'accusé de réception.
C'est ça. Mais à un moment donné, le 3 avril, j'ai envoyé un courriel parce que j'ai rencontré des policiers. Puis le policier me dit, il y a matière à criminel. Je l'informe parce que le policier dit, tu peux l'informer comme quoi qu'il y a des procédures qui s'en viennent. Oui. Je l'informe le 3 avril, comme quoi il y a des procédures criminelles qui s'en viennent.
Excusez-moi, quand vous dites policier, est-ce que c'est détective? Est-ce que c'est agent de la paix? Je voudrais savoir.
C'est un
enquêteur, je pense.
Un enquêteur, je n'ai pas le nom. Là. Mm-hmm. Puis à un moment donné, ce policier-là, bon, c'est ça, me dit, avertis-le. Je l'avertis le 3 avril et le 4 avril, elle lève une action contre moi au criminel.
Ouais, c'est ça,
mais c'est assez spécial, assez ironique.
Mais c'est facile pour vous intimider, pour vous dire fermez votre gueule, c'est ça?
En définitive, les lieux où vous êtes tombés, il n'y avait pas de garde-fou.
Non, il n'y avait pas de protection.
La CST exige qu'il y ait des garde-fous quand il y a un trou, une ouverture.
C'est pour ça, juste pour...
Sylvain Paquette, ça, on a compris un petit peu le tout de ça. Ouais. Revenons un petit peu, parce que vous reprochez aussi à des juges aussi, et je suis d'accord avec vous, ce n'est pas tous les juges qui sont des juges honnêtes. Il y a certains, parmi ces juges-là, malheureusement, des juges qui se croient pour le bon Dieu. Hein, des juges que, pour eux, c'est...
Parce que, encore là, bon, quand je suis allé en procès, bon, le 13 mars 2009, mon avocate, Nancy Lecomte, a dit au juge, elle y explique et tout ça, puis le juge, lui, revenait toujours à dire, ben, M. Paquette a travaillé dans un endroit où est-ce qu'il n'y avait pas de protection, donc c'est sa faute. Non, parce que les jurisprudences que j'ai trouvées, moi, le propriétaire des lieux en tel quel, son commerce était ouvert. Oui. Donc, selon la loi de la CSST, il est le maître d'œuvre.
Oui.
Puis, il y a un article. Il y a plein de jurisprudences qui démontrent que le maître d'œuvre.
Monsieur Paquette, vous êtes en train de nous dire, vous connaissez mieux qu'un juge, vous interprétez la jurisprudence mieux qu'un juge ou quoi? J'aimerais bien comprendre.
Non, mais je me fie à des jurisprudences que j'ai trouvées.
Est-ce que vous l'avez soumis, ces jurisprudences? Au juge?
Moi, non. C'est que le 13 mars, mon avocate... Mais le 24 février 2011, mon avocate, elle dit dans ses propos que moi, j'avais mes jurisprudences avec moi. J'étais prêt. J'avais tout. J'étais prête à poursuivre le procès.
Oui.
Mais moi, pourquoi d'abord je suis parti le 13 mars? Si, effectivement, tu étais prêt à poursuivre le procès que tu avais tes jurisprudences, est-ce que, là, en disant ça, est-ce qu'elle dit que le juge n'a rien voulu entendre.
Oui.
Le juge ne voulait pas prendre en considération les jurisprudences. Puis il dit...
Oui, mais prenez la chose bien simple. Même les policiers, lorsqu'ils interviennent dans un coin, ils mettent des rubans. Interdit de passer outre ces rubans.
Mais qu'est-ce que vous voulez
dire?
C'est
dangereux, vous risquez de faire disparaître les preuves, vous risquez... Donc, pour la sécurité, la CSST demande même qu'il y ait des garde-fous dans des endroits dangereux, afin que le monde ne tombe pas.
Non, mais revenons à la décision de Sylvain.
De construction, ouais.
Monsieur Paquette, pour vous, comment vous interprétez tout ça, là? Je comprends.
Ah, j'interprète ça que... Regardez, je peux pas prouver, je peux pas avancer des choses. Mais il y a eu, on dirait, des petites enveloppes qui se sont glissées à quatre parts. Il y a eu de la magouille. Pourquoi que le juge permet ça? Juste pour ouvrir une autre petite parenthèse. Là, on dit, moi, quand je suis allé en procès le 12 et 13 mars 2009, mon avocate, qui était Nancy Lecomte, la partie adverse était Maria Vézina.
Oui.
Quand je suis allé en désaveu des propos de mon avocate Nancy Lecomte le 24 février 2011, la partie adverse qui l'a interrogée est Maria Vézina. Là, on me dit, quand j'ai rencontré un autre avocat, un maître Lavoie, il dit, non, il dit, elle n'avait pas le droit.
C'est un conflit d'intérêt.
Elle n'avait carrément pas le droit. Ben, pourquoi le juge permet ça? Ah, parce que personne ne s'est objecté. Oui, mais le juge...
Il devra s'objecter lui-même.
Ben, c'est ça, le juge, il sait que ça, ce n'est pas légal. Mais il le permet.
Et voilà. Oui.
Alors, voilà, c'est le problème. Écoutez, sur ça, on va faire juste une petite pause musicale. Peut-être qu'on va revenir, vers Caroline qui va... on va changer de registre. Et peut-être vers la fin, on va revenir avec M. Sylvain Paquette pour donner sa dernière, ou son dernier mot, si vous voulez, sur cette histoire-là. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, restez à l'écoute. Nous allons revenir avec un autre sujet, avec Caroline, qui va nous expliquer un petit peu cette problématique qui s'impose le sort des étudiants qui font des études de haut niveau et qui se retrouvent à la fin être titrés.
Gros gens devant comme derrière. Quoi.
Voilà, le chômage. Hein, chômage.
Alors,
on écoute une petite musique et puis on revient avec vous, chers auditrices, chers auditeurs.
Y'a tellement de prophètes qui puent assez de croyants. Y'a tellement de bombes, le monde a l'odeur du sang. Y'a tellement de fonctionnaires, pourtant
il y a tellement de fonctionnaires, pourtant il n'y a rien qui fonctionne. Rien pantoute, rien pantoute. Oh, il y a tellement d'autoroutes, pourtant tout est à la déroute. De New York à Bagdad, du Congo à Beyrouth. Tout le monde répond à tout, mais ne font que semer le doute. C'est écrit gros dans le ciel, l'humanité fait banqueroute. C'est écrit gros dans le ciel, faut qu'on vire de bord. Faut qu'on vire de bord. Dis sois bon envers Dieu, mais ton voisin c'est un pouilleux. Il est peut-être dangereux, il est peut-être dangereux. Attention aux pauvres dans rue, c'est des voleurs, c'est connu. La mondialisation c'est bon, ça fait rouler l'économie. Ceux qui y croient pas, c'est des fuckés, c'est des bandits. On est tellement heureux, vive la démocratie. Ah, je suis tellement écolo que je me permets quatre autos. J'aime toujours l'eau, j'écris des deux bords de la page. Ce que je fais le samedi, je lave mon entrée de garage. J'excelle à l'ouvrage, puis mes enfants sont bien sages, mais je les connais pas pantoute. J'ai eu 48 mariages, 49, je m'en rappelle plus. Ah, j'ai beaucoup voyagé, Cuba, Turquie, Tunisie. Le monde est tellement fin, puis on décrisse de belles plages. Charge amène mon complexe hôtelier. Ben non, voyons donc, j'ai ben trop peur de me faire attaquer. Fait que je reste là me faire bronzer, puis j'ai la bière à volonté. Oh yeah. Puis j'aime tellement la nature, mais je déteste les fourmis.
Voilà, rebonjour chers auditeurs, chers auditeurs. Donc on va revenir avec Caroline. Bonjour Caroline.
Bonjour Cézy Tony.
Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à se révolter, de venir nous dévoiler ce sujet-là qui est vrai, hein, c'est une inquiétude hein, aussi au niveau de plusieurs jeunes ici.
Oui, exactement. Et je crois qu'il y a une iniquité entre les générations et il y a une iniquité par rapport au féminisme, par exemple, des années 70, 80,
vous allez 90. Vous voulez reculer un petit peu dans les années 60?
Ben, non, je ne vais pas trop reculer parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais je veux juste dire que, bon, à un moment donné, on fait un cheminement intellectuel, on fait des études, etc.
On choisit des études
qu'on aime aussi.
Exactement, c'est un choix.
Et on s'imagine que, parce que les féministes nous ont dit, bon, aller à l'université, les gens nous disent d'aller avoir
c'est bien d'aller plus, à l'université, hein,
plus, oui, on va avoir plus de chances d'avoir une qualité de vie, d'avoir une autonomie. Quand une femme a une liberté économique, bon, elle a le contrôle sur sa vie, etc., etc.
Exactement.
Et moi, je parle avec des personnes de la même génération que moi qui sont allées à l'université, des femmes. Puis on a comme une vision un peu différente du féminisme, des femmes, par exemple, baby boomers, qui sont rentrées au gouvernement, qui sont rentrées assez facilement dans les postes
Marois,
de pouvoir.
Marois,
exactement, Madame Marois et d'autres, qui sont facilement rentrées au pouvoir, qui sont facilement rentrées au gouvernement dans la fonction publique, avec des bacs, des études assez, assez sciences humaines, assez...
Je pense que Marois, Madame Marois, elle a juste un bac, si je ne me trompe pas.
Ouais, je pense en psychologie. Mais je vais prendre un autre exemple, Madame Giraud-Ferget aussi, je pense qu'elle a juste un bac en psychologie, puis elle a été ministre des Finances. Puis je l'écoutais l'autre jour, puis elle disait, moi, ce dont j'étais le plus fière, c'est l'équité salariale. Mais moi, quand j'entends ça, moi, j'étais à statut précaire comme enseignante, puis j'entends ça, puis je me dis, moi, j'ai jamais fait d'argent, puis j'étais allée à l'université, j'ai jamais eu la sécurité économique. Puis quand je vois, par exemple, les policières, les chauffeurs d'autobus qui ont très peu de scolarité, qui sont protégés mur à mur par un gouvernement, par la déontologie policière, qui on adapte ces métiers-là qui étaient...
On rassure la
qui étaient des métiers masculins. Alors, on les féminise pour dire, ben voyez, les femmes, vous allez avoir du pouvoir, vous allez avoir une arme, vous allez vous sentir en sécurité, etc. Mais là, on se rend compte que les femmes ne sont pas tant que ça en sécurité, même si vous avez une arme, même si vous faites une formation militaire. Puis là, je vais donner des exemples concrets. Par exemple, le colonel qui a tué la militaire qui était chez elle, puis qui a tué l'autre jeune fille qui était toute seule dans sa maison. C'est un militaire. Elle était militaire aussi. Donc, c'est quelqu'un qui sait se défendre.
Mais attention, il a pu tuer un homme aussi, hein, faut pas...
Ben non, il s'est attaqué à des femmes qui étaient seules, il allait chercher des sous-vêtements.
C'est un psychopathe, ça.
Oui, c'est un psychopathe. Mais combien il y a d'hommes qui sont dans des situations comme ça, même dans un couple, à un moment donné, ça ne fait plus l'affaire du gars.
Alors... Mais Caroline, vous êtes en train de dire qu'une femme, elle ne peut pas être policière, elle ne peut pas être dans l'armée ou quoi?
Non, ce n'est pas ce que je dis, mais ce que je dis, c'est qu'on donne une fausse sécurité aux femmes, qu'en faisant des métiers d'hommes, vous allez avoir une sécurité financière, vous allez avoir une sécurité chez vous. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas un petit cours d'arts martiaux, c'est quand vous êtes chez vous, vous avez avait plus d'armes. Comme même, je vais prendre un autre exemple, le gars de la SQ qui est allé tirer sa copine, son ex-copine, puis qu'après ça, il s'est suicidé. Bon, il y avait une arme de service. Elle, tu sais, je veux dire, puis c'est une femme qui est supposée d'être qui est supposée d'avoir une défense, qui est supposée de... Alors, dans le fond, on n'est pas si en sécurité que ça, même si on fait des métiers d'hommes, puis on n'est pas sûr d'avoir une sécurité financière, même quand on va à
l'université. Même s'aventurer dans des terrains comme ça de masculin, on risque de ne pas avoir un travail.
Si vous permettez, il y a des femmes qui étudient à l'université, qui ont des beaux diplômes, mais il faut dire une chose, que les universités, parfois, les exploitent aussi. Il y a une exploitation du savoir.
Dans quel sens, le savoir?
Parce que dès qu'elles sont diplômées, on les prend pour faire de la recherche, recherche-développement.
Mais c'est bien ça, Roland.
Oh, c'est très bien, oui, mais les exploitent à des prix vraiment
minimum. Mais c'est la même chose dans les médias. Dans les médias, les femmes qui finissent, comme moi, en histoire, communication, elles finissent recherchistes, mais elles ne sont pas morning woman. Et moi, j'étudiais à la fin des années 80-90, ça ne fait pas 2000 ans.
Vous êtes diplômée en communication. Hein?
Oui, histoire, politique, communication. Oui. On faisait recherche féministe en communication, on disait déjà à cette époque-là, il n'y a pas de morning woman, mais il n'y a toujours pas de morning woman qui parle de politique le matin. Quand Paul Arcand parle le matin, il y a un éditorial. Quand il défend qu'il manque d'hommes dans la profession des enseignants, il dit de façon détournée que s'il y avait plus d'hommes, ça veut dire que les femmes ne font pas bien leur travail comme enseignantes. Puis là, il dit il manque de modèles masculins, mais il manque de modèles masculins dans la société québécoise, peut-être parce que les hommes ne sont pas là. Pourquoi il faut que les hommes soient dans l'éducation puis que là, il y aura moins de décrocheurs?
Mais si vous permettez, on fait des cadres, mais des cadres vides. Il y a juste le cadre. Vous voyez? Alors imaginez un musée, vous avez juste des cadres et vous n'avez aucune photo intérieure, aucune image, aucune peinture. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. On fabrique des cadres. Et vous avez les compagnies comme Rio Tinto, par exemple, qui vont débarquer des milliers de cadres ici, qui vont se débarrasser des cadres. Pourquoi vont-ils se débarrasser des cadres? Ils en ont trop mis. Il y a 16 hommes pour un cadre.
Les gens étudient au HEC parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un bon emploi. Alors,
c'est un autre problème aussi. Ça veut dire que les gens, maintenant, ils vont faire attention, double attention. Ils sont quasiment avertis comme quoi c'est mieux de ne pas aller vers des études comme, par exemple, quand vous avez fait la communication, Sciences Po, littérature.
Exactement. Moi, s'il y a une femme qui se présente, je vais lui dire, fais un petit deck comme policière, va chauffeur d'autobus, va-t'en pas pendant 3, 4 ans, 5 ans à étudier en communication. Tu n'auras pas une job à radio, tu vas être recherchiste ou tu vas travailler à la radio, mais tu vas commencer à 9h, 10h le matin, puis tu vas parler de chiffon, tu vas parler de parapsychologie, tu vas parler de trucs un peu sociaux. Il y a des très bonnes animatrices à 9h-10h le matin, mais on leur demande de pas trop parler de politique parce que le matin, l'éditorial a été fait par des gens...
Mais Caroline, ça, vous parlez de... Par exemple, on prend 100 personnes qui vont sortir en communication et on va quoi? On va prendre une personne et les 99...
Premièrement, dans les radios privées, c'est des comédiens, c'est des humoristes, c'est pas des gens qui ont étudié en politique, c'est pas des gens qui ont étudié en communication. Mario Dumont disait, les gens, ils étudient en communication, mais ils n'ont pas d'autres études. Ben moi, ça donne que j'étudie en histoire, en politique et en communication. Fait que j'ai aussi des données, j'ai aussi un fond de politique, donc je dirais pas n'importe quoi. Lui, il a étudié en sciences, il se retrouve à TVA à dire à peu près n'importe quoi. Puis moi, ce qui me dérange, c'est qu'on parle toujours, on parle de la gauche, on parle de la droite, on répète toujours les mêmes choses. On parle de syndicats, on met tous les syndicats dans le même bateau. Oui. Je m'excuse, mais il y a des syndicats de gars, il y a des syndicats de femmes, il y a des syndicats de bras qui ont des bras, par exemple FTQ. Eux autres, ils ont des bras, ils travaillent en construction, ils ont des gros bras. Alors oui, on peut les appeler des syndicats de bras, puis ils font de l'intimidation. La même chose avec les policiers, les pompiers, c'est des syndicats de bras, ils font de l'intimidation, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Alors quand les étudiants, les professeurs, les enseignants disent « Ah oui, nous autres aussi, on aimerait ça avoir quelque chose », là, on leur dit « Ah, loi Bayon, en Ontario, on dit non, vous, vous avez plus le droit de grève. On a dit ça aux enseignants. Alors, les enseignantes, c'est des gens qui sauvent pas de vie. Ah bon? C'est pas parce que c'est pas héroïque. On en sauve des vies. On va à l'université. Être enseignant, c'est 4 ans d'université. C'est pas 3, c'est 4. Puis si on, en, encore là, si on fait des comparaisons avec des syndicats, par exemple, des syndicats de filles, on va dire, ah, c'est la même chose avec les infirmières. Mais au Québec, les infirmières sont majoritairement des DEC. C'est même pas des bachelières. Oui. Mais les profs, c'est 4 ans d'université. Encore. Alors là, tout ce qu'on dit, c'est on met en face, oui, mais ils ne savent pas écrire, ils font des fautes d'orthographe. Ah, bien, gardons ça. C'est qui a implanté ce système de marxiste-léniniste, tout le monde est égaux. Les baby-boomers. Et vous, baby-boomers, Foglia et compagnie, comment ça se fait que vous ne nous avez pas bien enseigné à écrire le français? Comment ça se fait que vous autres, vous vouliez que tout le monde soit égaux? Puis là, aujourd'hui, vous nous reprochez de ne pas bien écrire le français. Mais c'est vous qui l'avez implanté, ce système-là. Puis vous avez pris toutes les belles jobs. Vous êtes tout installé au gouvernement. Après ça, M. Bouchard est arrivé et a dit on coupe tout. On coupe tout. Puis là, vous autres,
Oui, mais savez-vous pourquoi il a tout coupé? C'est parce que le fédéral a coupé la participation aux soins de santé. Et aujourd'hui, on nous représente la facture de. Vous savez, c'est toute une emmanchure, cette affaire-là. Le fédéral coupe la participation aux soins de santé. On n'a plus l'enveloppe pour payer nos docteurs.
Mais là, Roland, je ne serais pas d'accord avec vous parce que.
Et là, on nous présente la facture.
Parce que les juridictions provinciales, c'est la santé puis l'enseignement. Puis c'est les deux champs où ça va pas très bien, où les gens sont pas très satisfaits. Et là, on essaye de nous mettre toute l'espèce de droite radio X, etc., de gars qui sont frustrés, etc. Mais il y a aussi des femmes frustrées, puis il y a aussi des femmes de ma génération frustrées. Puis nous autres, on est allés à l'université, puis quand on nous dit « Hey, t'as pas de chum, t'es pas marié, ta. » Mais moi, ça me tente pas de marier un policier, ça me tente pas d'épouser un pompier, parce que j'ai de l'éducation. « Oh, t'es donc méprisante. » Hey, je suis allée à l'université, je l'ai payé, cette université-là. Il fallait que je me paye un appartement. J'avais des dettes quand je suis sortie. Je me suis retrouvée sur l'aide sociale. J'ai travaillé à statut précaire. Je me suis fait envoyer chier. Puis moi, je ne suis pas dans la fraternité des policiers qui disent « Ah, oh, mais là, ça serait peut-être temps qu'on ait des amendes quand les gens nous insultent. » Ah oui, moi, j'aimerais ça dans l'enseignement. À chaque fois qu'il y a un élève qui m'a insulté, lui donner une contravention de 150 $. Alors, je pense que les gens ne sont pas défendus de la même façon quand tu es une femme, quand tu es un... Parce qu'on sait bien que les enseignantes, autrefois, c'était des sœurs, c'était les bonnes sœurs, c'était une vocation. Sauf qu'on s'excuse, mais aujourd'hui, elles vont à l'université, elles investissent et elles veulent avoir le fruit de tout ça. Mais elles n'ont pas de syndicats de bras. Et les syndicats de bras, l'intimidation, quand Charest parlait d'intimidation, ça marche, l'intimidation. Ils obtiennent tout ce qu'ils veulent. Comment ça se fait que les pompiers obtiennent tout ce qu'ils veulent? Comment ça se fait que les pompiers obtiennent tout ce qu'ils veulent?
Les policiers,
ils claquent des doigts, puis même quand ils sont pas en train de négocier leur convention collective, Caroline, ils demandent des travailleurs sociaux, ils les ont.
Ouais. Mais Caroline, j'aimerais savoir, vous êtes là dans cette position-là, moi je suis complètement d'accord avec vous, sur ce point-là, mais vous n'êtes pas ici juste pour défendre le côté féminin, vous défendez aussi, pour vous, c'est une injustice pour tous ceux qui sortent d'université, qui ont des diplômes et tout, qui n'arrivent pas. Parce qu'il y a aussi, dans le cas aussi, des hommes aussi qui peuvent venir ici dire la même chose que vous aussi.
Absolument, absolument. Mais les hommes, pourquoi les hommes ne vont pas dans l'enseignement? Parce qu'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de gun, tu n'as pas d'autorité. Le petit gars, il t'envoie chier. Tu le mets en
retenue.
Il s'en fout. Tu vas être obligé de laisser passer tout le monde. Alors, ce que les gens font dans l'enseignement, c'est qu'ils font une espèce de processus de survie, une façon de survivre. C'est-à-dire que tu es gentil avec tout le monde, tu mets 95 à tout le monde, tu fais semblant de faire des jeux. Oui,
mais Caroline.
Puis tu fais un petit peu comme 30 vies, puis Virginie, ça n'a absolument rien à voir avec la réalité. Oui,
mais Caroline, c'est pas une chose qui est importante. Un professeur ou un enseignant, il devra aussi développer certaines capacités aussi de comment il peut réagir avec des. On parle des élèves, hein, on parle des.
Oui, mais les gens n'ont jamais mis les pieds dans une école en 2012. J'ai laissé depuis longtemps, puis on est un paquet à laisser l'enseignement. Il y a un paquet qui décroche, il y a un paquet qui sont en détresse psychologique. Puis la détresse psychologique, c'est même chez les médecins. Alors même les femmes qui sont médecins, on l'a vu avec M. Turcotte, Mme Gaston, c'est tous des gens qui ont une belle façade, mais on se rend compte que là aussi, il y a de la détresse psychologique.
Ils ont des squelettes dans le placard. C'est le cas de le dire, oui.
Alors,
ça finit par tourner très mal, ces affaires-là, parce que, voyez-vous, c'est qu'on a, on a formé des jeunes, oui. des jeunes gens, des oui. gens, dans les universités, tout ce qui s'ensuit, mais on n'a pas prévu les débouchés. Et ceux qui s'accrochent dans les gouvernements et tout ce qui s'ensuit, qui sont âgés, qui ont des vieux systèmes arriérés, ne veulent pas débarquer pour laisser la place aux jeunes. Oui. Voilà le problème.
Mais maintenant, c'est ça, j'aimerais bien revenir, Caroline, sur ça. Ça, c'est important de savoir aussi que maintenant, il y a un grand pourcentage de femmes, hein, de femmes qui vont à l'université par rapport aux hommes.
Oui, mais ça, c'est un autre problème, parce que moi, je parlais à des amis, oui. puis là, ils se disent, on a de la difficulté à trouver des conjoints, parce que, puis je vais citer Jeannette Bertrand. Jeannette Bertrand disait, bien là, les filles, vous allez être première ministre du Québec, vous allez être première ministre, mais attendez-vous pas à avoir plus. Vous allez être obligé de faire comme autrefois les présidents de compagnie qui sortaient avec la secrétaire. Là, maintenant, vous allez être obligé de prendre quelque chose de moins instruit, de moins... Mais ça intéresse pas les femmes. Oui. Moi, je parle avec mes copines, disent, non, moi, je vais avoir un gars avec qui je peux avoir une interaction intellectuelle, avec qui je peux discuter de ceci, de cela. Ça ne me tente pas d'être l'espèce de Madonna avec son boy toy, puis tu vas avoir une relation égalitaire avec un homme qui est intéressant, etc., etc. Bon, on ne veut pas que nécessairement notre chum vienne au ballet s'il n'aime pas le ballet.
Tout à fait juste, oui.
Mais moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on a donné de la valeur à des emplois qui étaient traditionnellement masculins. Même avec moins de scolarité. Mais tout ce qui était féminin, qui était déjà établi, qui était autrefois par les
hommes... Pas juste féminin, Caroline, pas juste féminin. Des emplois aussi qui...
En philosophie.
C'est ça.
Oui, mais avant, les gens rentraient au gouvernement. Là, il n'y a plus de place au gouvernement. Les gens ne rentrent plus au gouvernement.
Mais est-ce qu'il y a derrière ça, il n'y a pas une grande inquiétude? Moi, je me demande pour ces gens-là qui veulent, par exemple, qui finissent leur cégep, par exemple, et ils s'en vont à l'université.
Mais la réponse...
C'est-à-dire qu'il est en train de... Il réfléchit deux fois.
Mais la réponse à tout ça, c'est le conflit étudiant. Parce que ceux qui ont été le plus militants, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui est étudiant en histoire. Ouais. C'est tous ceux qui sont en politique. Ça. Et là, les policiers leur tapaient dessus. Puis ils disaient, vous étudiez en quoi? Ils prenaient leurs photos, vous étudiez en quoi? Alors, tous ceux qui sont en histoire, en politique, sont stigmatisés. Mais c'est sûr que les gens en histoire puis en politique vont aller dans la rue. C'est sûr que moi, je parle comme ça. Moi, j'ai étudié en politique. J'ai pas étudié pour réparer des dents. J'ai étudié pour qu'il y ait des égalités entre les gens.
Exactement.
Mais là, on est dans les vieux discours de syndicalistes, on entend la gang de Radio-Canada qui sont permanents qui disent, ah oui, mais là, on veut pas devenir comme la droite américaine. On n'est pas obligé de devenir comme la droite américaine. On n'est pas obligé de mettre les gens à 10$ de l'heure. On peut trouver des bons emplois, mais pas qu'une minorité ait tout et qu'une autre ait rien.
Caroline, on va juste on va respirer un petit peu. On va faire une petite pause musicale et on va revenir pour la fin de l'émission.
Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom, Alonso Quijano. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijano, mais un preux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha. Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, c'en est trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable monde, écoute-moi, un chevalier te défie. Oui, c'est moi, Don Quixote, seigneur de la Mancha, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quixote sans peur, et le vent de l'histoire chante en moi. D'ailleurs, qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire.
Et moi, je suis Sancho.
Voilà, rebonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Donc, on va revenir avec La révolte de Caroline.
Tout est soufflé.
ça va mieux maintenant, Caroline?
Ah, mais il fallait que ça sorte, puis je suis contente que ça soit ici.
Non, mais parce que quand même, Caroline, je vous comprends. Hein, parce que imaginez-vous, vous avez quand même fait fin d'études en 80, je pense, en 90.
Début 90.
Et jusqu'à présent, vous êtes en train, toute la difficulté de la Terre pour trouver, joindre les deux bouts et tout. Je trouve ça, c'est pourtant, vous avez tout le bagage nécessaire pour normalement vivre une vie qui est paisible et tout. Mais ce n'est pas le cas.
Non, ce n'est pas le cas. Ouais. Et on parlait des hommes aussi.
Je reviens sur la question que je voulais, parce que vous avez parlé beaucoup, beaucoup de côté féministe.
Féminin, oui, parce qu'on n'en parle pas beaucoup.
Alors, j'aimerais bien vous dire qu'à votre place aujourd'hui, il y a pu avoir un homme qui va dire la même chose que vous pour cette catégorie d'hommes qui ont fait des études et tout, et qui, malheureusement, ils n'ont pas eu cette chance-là d'avoir un travail.
Comme par exemple en anthropologie. Ouais. Alors là, ils vont faire un autre emploi, ils vont se contenter, comme moi et d'autres, de faire des petits boulots. Mais là, à un moment donné, le temps avance et là on se rend compte qu'on est tout seul, qu'on n'a pas rencontré le prince charmant, parce que ça aussi je veux revenir là-dessus.
Le prince charmant?
Ça revient là.
Barnabé, juste à côté
ça,
de vous,
ça revient. Non, c'est vrai, ça revient au grand galop. On a eu des grandes batailles féministes et là, les filles sont devant la télévision pour regarder le mariage de Kate et William. Puis là encore là, le meilleur exemple, Kate a quoi? Un bac, je crois, en géographie ou en histoire de l'art. Mais Kate ne finira pas sur l'aide sociale, elle ne fera pas des boulots dans les centres d'appel. Elle est, ouais. William est quoi? Il est un militaire
aviation.
Alors, c'est son frère. Mais c'est ça. Alors, le mythe de la princesse.
La sécurité, tu veux dire? La force et la sécurité, vous êtes en train de dire.
Mais c'est que le mythe de la princesse revient au grand galop, finalement. Comme par exemple, vous regardez Occupation Double, ça revient au grand galop. C'est encore des Barbies. Puis c'est des filles dentistes qui s'en vont chercher un pompier. Bon, là, je veux pas.
Mais
ça reste que ces filles-là, ils ont fait des études, ils ont travaillé fort,
non,
tout
c'est
ça.
C'est des gens qui ont le feu, les pompiers, là.
On en a besoin, c'est correct. J'ai pas d'objection à ça. Mais quand ils sont rendus, qu'ils travaillent, je crois, 12 jours par mois, puis qu'ils ont le temps d'avoir un autre emploi, comme les policiers, qui ont le temps d'avoir des immeubles, puis tout ça, qui ont le temps. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Théoriquement, ils n'avaient pas le droit avant. Ils n'avaient pas le droit d'avoir deux jobs.
Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, là.
Mais vous parlez de la femme intellectuelle. Ça, vous ne pensez pas que l'amour, c'est aveugle? Elle peut.
Moi, j'ai déjà essayé avec des menuisiers.
Ça
n'a pas
marché.
Avec des...
Un menuisier?
Oui,
c'est
oui, mais tout ça. Qui est très de ses mains et tout ça.
Moi, ça n'a pas marché.
On a tout fait ça, mais nous autres, moi, je suis la génération Madonna. Alors, on s'est amusé au gros maximum. Jusqu'à temps que le sida arrive, là, on s'est.
Là, elle était rabotée complètement.
Là, on s'est calmé. Là, on a commencé à avoir un peu plus peur. Puis là, à un moment donné, on a décidé, on a dit, ouais, mais là, l'argent rentre pas. J'ai pas une bonne job. Le gars, finalement, il reste pas. Madonna, elle a de l'argent, elle peut se payer un boy toy.
C'est pas le cas. Ouais.
Mais, tu sais, puis aussi, ce qu'on veut, c'est une bonne job, puis on veut une belle relation. On veut pas être.
Parfait,
juste les avoir de cuisine.
Alors, je reviens maintenant avec. On va changer et on va revenir avec M. Paquette, Sylvain Paquette. Vous avez passé cette saga, là, cette aventure dans les coulisses de la justice.
Il est resté un vide de justice.
Et qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui? Comme je vous laisserai 2 minutes peut-être pour qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui?
C'est rendu qu'à un moment donné, à quelque part, ça n'est vraiment pas évident de se battre. Puis là, c'est de trouver un avocat qui veut. Mais quand à un moment donné, tu t'es à quelque part, j'ai un gros handicap avec toutes les blessures que j'ai eues. Puis bien des gens me disent d'abord, t'es encore capable de bouger? Puis t'es debout avec toutes les fractures que t'as eues. Et regarde. Puis là, je suis obligé de me battre, mais là, à un moment donné, moi, je travaille plus. Là, je me fie sur le salaire de mon épouse pour m'aider à payer qu'est-ce que je peux payer. Mais comment je peux me trouver un avocat à 300$ à l'heure pour défendre mon dossier? Puis quand un avocat te dit, bon, écoute, je vais utiliser ton dossier, mais juste avant pour le prendre, il va falloir que tu me donnes 5 000 d'acompte.
Voilà. Combien, 5 000?
5 000 d'acompte.
Parce que votre dossier est fracture, mais là aussi les factures. C'est un jeu de mots.
À un moment donné, je sais, et puis quand tantôt, je disais, bon, mon avocate, Nancy Lecomte, elle n'a pas démontré à ce moment-là, au départ, non, je m'excuse, M. Juge, mais le maître d'œuvre, M. Juge, l'article 196, qui dit le maître d'œuvre doit respecter au même titre que l'employeur les obligations imposées à l'employeur par la présence, par les règlements. Et si on prend juste, bon, l'article 2.4.4, le maître d'œuvre stipule, sur un chantier de construction, le maître d'œuvre est responsable, entre autres, des rampes, des garde-corps permanents et des autres mesures générales de sécurité.
C'est précis, ça veut dire.
C'est précis. Oui, c'est mais moi, mon avocate n'a jamais démontré ça. Puis, le juge, je suis sûr que les juges que j'ai rencontrés, dont six, à la Cour d'appel, à la Cour suprême et tout ça, le savent, cette loi-là. Ils sont au courant de cette loi-là. Mais on s'en fout. Parce que mon avocate ne l'a pas démontré. Donc, tout me revient en pleine face.
Là, on parle de la compétence. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, dernier mot, Sylvain Paquette. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui sont dans la même situation que vous aujourd'hui, qui sont en train de combattre un système judiciaire qui est énorme? Est-ce que vous leur demandez...
Oui? La confiance d'avocat, c'est très, très, très difficile. Là, oui, regardez, j'ai une poursuite au criminel. Puis bon, là, je fais confiance à l'avocat Marc Lavoie. Puis je fais confiance, mais
vous gardez
confiance de reculons.
Ceci va vous garder confiance. Roland,
alors moi, rapidement, je dis, Roland. Dites non à la guerre et dites oui à l'amour.
À l'amour, je suis d'accord.
Tout à fait d'accord.
Pour vous, Caroline, peut-être. Caroline, un dernier mot, s'il vous plaît, avant qu'on finisse l'émission.
Bien, je pense que j'ai...
Quel est le conseil que vous donnez à ces femmes-là, à ces hommes-là aussi, qu'ils ont fait des études et malheureusement, ils sont au chômage, quoi. Un chômage prolongé. Est-ce qu'ils acceptent des jobs comme ça précaires et puis
oui, bien parce qu'on n'a pas le choix. Là, il faut gagner notre vie, puis il faut avoir un beau sourire, il faut être gentil, puis on sait pas les occasions vont se présenter ou à un moment donné.
Ou alors un prince charmant.
Il faut attendre le prince charmant. Voilà,
on l'attend, on l'attend. Mon Dieu.
Il n'est pas loin.
Il se fait attendre.
Dans votre cas, il n'est pas loin, le prince charmant, je suis certain. Alors écoutez, là, voilà, donc nous arrivons, chère Autriche, chère auditeur, au terme de cette émission. Donc j'aimerais remercier mes invités pour leur contribution, Caroline et M. Sylvain Paquette. Merci à mon collègue Roland Cazès et notre technicien de son, Joseph-Louis Attendi, si j'ai bien prononcer le mot. Et on dit aussi finalement merci, un grand merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. À moi, je vous dis, chère auditrice, chère auditeur, je vous donnerai rendez-vous à vendredi prochain à la même heure et merci de nous avoir suivis. Au revoir.
Criant SOS Gaïa, accoutré comme des pies avec les yeux rougis. Cheveux longs et surplus d'armée, en bédaine et jouant du tam-tam. On se serait cru 30 ans passés pendant la guerre du Vietnam. Il y avait tous les clichés de l'époque, des granolas, des chemises en macramé, aux plis poilus en dessous des bras. Dans grande majorité du cégep du vieux Montréal, tout cela pour manifester contre les multinationales. Et la mince foule grelottait en ce froid jeudi printemps. Et aux étudiants qui boxaient s'ajoutaient quelques passants. Des marxistes, léninistes, des militants pour le pot. Et une couple d'écologistes ont investi le spot. On écoutait le vieux cinglé qui se prenait pour Castro avec son képi d'officier et son couteau de Rambo. Mais on a vite constaté qu'il lui manquait un marteau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo. À la manifestation, émeutés des policiers sur leur bail pour contrôler la meute. Ça se déroulait pacifiquement sans trop écorcher le système. Et on scandait des beaux slogans contre les OGM. Quand soudain sont débarqués des types un peu extrémistes ou de ninja cagoulés, se proclamant activistes comme des petits Che Guevara. Ils ont pitché deux, trois pétards. Les bœufs sont rendus dans le tas. Je jure qu'ils ont pas veillé tard. À la manifestation, car en guise de protestation, les beatniks sont déshabillés pour faire un danseton. Les policiers en beau fusil ont sorti menottes et matraques et ont approché les hippies à grands coups de jarnac. Pendant que les écologistes pleuraient devant tant de sévices en implorant Jésus le Christ de stopper l'injustice, on entendait les chiens japper à travers le bruit des sirènes, bien étouffés par la fumée des gaz lacrymogènes. Au même moment, la gang de fils qui dansait à poil sous la pluie faisait comme un remake de Grease. En version Hillbilly, quand le ciel s'est déchaîné, il s'est mis à tomber des clous. Ils ont pris leurs jambes à leur cou, et ce fut terminé.
non-stop sur les Antilles.
Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, minuit 30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matin, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matin, 8 à 9.
Le Camo PI fait la promotion de la main-d'œuvre immigrante comme solution gagnante au développement du plan Nord.
Le Comité d'adaptation de la main-d'œuvre pour personnes immigrantes, le CAMO-PI, est financé par la Commission des partenaires du marché du travail pour développer des stratégies visant à accroître l'intégration des personnes immigrantes en emploi. Pour obtenir plus d'informations sur nos travaux et recevoir notre bulletin d'information électronique, visitez le camo-pi.qc.ca.
Salsa, reggae, kamba, zouk, lambada, bossa nova, fado. Tagamuffin, Mala, Hango, Samba, Merengue, Bachata, Jazz, Chansonnette française, Soukous, Rock francophone, Funk, Blues, Techno, Drum and Bass. Toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.